Il y a 150 ans, le 3 juillet 1866, se déroulait la bataille de Sadowa entre les forces prussiennes et autrichiennes, la plus grande à avoir jamais eu lieu sur le territoire tchèque. Près de 500 000 hommes prirent part à la bataille près de Hradec Králové, ainsi qu'elle est appelée en tchèque. Mais cet affrontement n'est pas seulement important par son ampleur, mais aussi et surtout par ses conséquences. La nette victoire prussienne allait en effet redessiner les cartes du monde germanique et permettre au chancelier Bismarck d'avancer ses pions pour concrétiser son projet d'unification allemande sous l'égide de la Prusse. Aussi, il n'est peut-être pas de mauvais goût de consacrer sur Radio Prague une rubrique historique spéciale à la bataille de Sadowa. Cette émission, qui est présentée par Denisa Tomanova, a été préparée par les soins de Pierre Maignan.
Chapitre de l'histoire. La grande bataille à laquelle on s'attendait s'est livrée hier près de Königsgrätz. Elle n'a pas duré moins de 8 heures. Le sort des armes a encore été fatal aux Autrichiens qui ont été forcés de battre en retraite après avoir perdu beaucoup d'hommes et de canons. La perte des Prussiens a également été considérable.
Dans cet extrait tiré du quotidien Le Temps, en date du 4 juillet 1866, force est de constater qu'on ne sait pas encore grand-chose sur la grande bataille qui s'est déroulée près de Hradec Králové, ville du nord-ouest de la Bohême, dont le nom allemand est Königsgrätz. Les dépêches télégraphiques permettent toutefois de se faire une idée du rapport de force à l'issue de cette nouvelle confrontation. Le même jour, les lecteurs qui préfèrent autant le journal Le Constitutionnel peuvent lire.
Hier a eu lieu en Bohême le grand choc que l'Europe attentive attendait depuis plusieurs jours avec une anxiété fiévreuse et le sort des armes a encore une fois tourné contre les Autrichiens.
Attente fiévreuse de toute l'Europe, nouvelle défaite des Autrichiens, perte considérable dans les deux camps. C'est tout cela la bataille de Sadowa. Avant de revenir plus en détail sur son développement, il convient sans doute d'expliquer dans quel contexte elle prend place. Et avant que d'avancer inexorablement vers la connaissance absolue de cette bataille, je vous propose d'écouter un extrait du « Temps des cerises », de célèbres chants révolutionnaires interprétés par de très nombreux artistes, notamment Yves Montand ou Édith Piaf, a en effet été écrit durant cette riche année 1866 par Jean-Baptiste Clément. Ici une version chantée par Charles Trenet.
La paix a été signée avant-hier à Prague entre l'Autriche et la Prusse. Le cabinet de Vienne a pressé la conclusion, surtout en vue d'une prompte évacuation par les troupes prussiennes de la Bohême, très cruellement éprouvées par l'occupation ennemie.
Quand nous chanterons le temps des cerises, les guérosignols, les merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises où l'on s'en va de cueillir en rêvant des pendants d'oreilles. Cerises d'amour aux robes vermeilles tombant sous la mousse en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises pendant de corail qu'on cueille en rêvant.
De Depuis 1815 et le congrès de Vienne qui redessine les cartes de l'Europe après l'ultime défaite de la France napoléonienne, l'Europe centrale s'organise autour de la Confédération germanique. Héritière du Saint-Empire romain germanique, elle représente une tentative d'intégration politique entre une trentaine d'États et de villes libres, avec deux géants dont les territoires excèdent d'ailleurs les limites de la Confédération, l'Empire d'Autriche et le Royaume de Prusse. La rivalité des deux États pour des gains territoriaux dans l'Europe médiane, notamment en Silésie, et pour la domination du monde germanique est ancienne. Déjà au XVIIIe siècle, Vienne, la capitale autrichienne, et Berlin, la capitale prussienne, se sont opposés à l'occasion de divers conflits, la guerre de succession d'Autriche, la guerre de Sept Ans ou encore la guerre de succession de Bavière. Cette rivalité porte un nom, c'est le dualisme allemand. La lutte d'influence au sein de la Confédération germanique est exacerbée après 1848 et le Printemps des Peuples, une série de révoltes et de révolutions libérales qui touchent toute l'Europe, des territoires dominés par la Prusse comme d'autres, la Bohême ou la Hongrie, dominés par l'Autriche. Ces mouvements sont réprimés malgré certains acquis, mais l'idée d'une unification allemande qui pourrait se faire sous l'égide de la Prusse fait son chemin. Le roi de Prusse, Frédéric Guillaume IV, a laissé passer l'occasion de réaliser cette union avec l'appui des peuples. Son successeur, Guillaume Ier, va s'atteler à la tâche avec l'appui du très conservateur Otto von Bismarck. Après une première guerre menée avec les Autrichiens contre le Danemark en 1864, c'est Bismarck qui va être l'instigateur du conflit contre Vienne et l'empereur habsbourgeois François-Joseph Ier d'Autriche. Historien à l'Institut d'Histoire de l'Académie des Sciences de République Tchèque, Vojtěch Kessler, notre guide aujourd'hui pour découvrir la bataille de Sadova, raconte.
On considère généralement que l'initiateur de la guerre était le chancelier prussien Bismarck, entré en fonction en 1862. Il avait l'objectif de parvenir à l'unification allemande sous l'autorité de la Prusse. Il disait vouloir parvenir à l'unité par le fer et par le sang. Cela veut dire que pour que la Prusse prenne la tête de la Confédération germanique, il doit y avoir une confrontation violente avec l'Empire d'Autriche. Donc on peut dire que c'est le chancelier Bismarck qui a été à l'origine de cette guerre.
Le prétexte au déclenchement de la guerre est à chercher dans les suites de la guerre menée au Danemark, à l'issue de laquelle l'Autriche administre les duchés de Schleswig et de Holstein, repris à Copenhague. Berlin conteste certaines décisions autrichiennes et Vienne fait voter la mobilisation générale. Deux coalitions sont formées, réunissant différents États de la Confédération autour deux principaux belligérants. Malgré une tentative vaine des Britanniques d'empêcher le conflit, la France, elle, reste passive. Peut-être Napoléon III espère-t-il des gains territoriaux en Belgique ou au Luxembourg ? Toujours est-il qu'il ne voit pas la menace que fait peser une Prusse hégémonique et que des observateurs le lui reprochent. Au début de la décennie 1860, la Prusse a procédé à une réorganisation de son armée qui peut maintenant s'appuyer sur un service militaire qui dure 3 ans et sur la formation d'une armée de réservistes. Les soldats prussiens sont équipés de fusils Drèze, les premiers dont la recharge s'effectue par la culasse et non plus par la bouche du canon, un système qui se révélera bien supérieur. L'espace prussien a d'ailleurs pris le train de l'industrialisation plus rapidement que le voisin autrichien qui reste largement dominé par le monde agraire. En parlant de train, Berlin a mis en place un réseau ferré, dense et efficace qui permet d'accélérer le transfert et le déploiement des troupes. Autant de facteurs qui permettent à l'armée prussienne de pouvoir dominer sans peine son sujet. Débutées à la mi-juin, les opérations militaires s'achèveront à peine un mois plus tard. Vojtěch Kessler.
Ta válka byla poměrně krátká, protože vlastně...
Cette guerre a été relativement courte. Les troupes prussiennes ont franchi la frontière de la Bohême les 22 et 23 juin et la bataille décisive a eu lieu le 3 juillet. Donc cela correspond à une durée de près de 10 jours. Et pendant ces 10 jours, les soldats prussiens ont inexorablement progressé sur le territoire de la Bohême. Au total, il y a eu entre 8 et 10 affrontements avec l'armée autrichienne. À une exception près, l'Autriche a perdu toutes ses batailles, comme celle de Skalitz. Mais le plus essentiel, c'est que l'Empire d'Autriche a subi des pertes bien plus importantes. C'est comme cela, avec ce déficit moral, que les armées autrichiennes ont appréhendé la bataille décisive.
Un affrontement durant lequel vont s'affronter plus de 200 000 hommes dans chacun des deux camps. À titre d'exemple, cela représente un total 3 fois plus élevé que pour la bataille d'Austerlitz, dont le site se trouve également sur le territoire de l'actuelle République tchèque, mais en Moravie. dans l'armée autrichienne, qui compte d'ailleurs un important détachement de Saxons, lesquels sont plus de 20 000, il se dit qu'on peut entendre parler 13 langues différentes. Car au contraire de la Prusse, l'Empire d'Autriche est un état multiethnique où se côtoient des Hongrois, des Tchèques, des Polonais, des Croates, des Ukrainiens ou encore évidemment des Allemands autrichiens. Avant de poursuivre davantage sur la bataille de Sadowa, on écoute un extrait d'une chanson française écrite dans les années 1860 par Alexis Bouvier. Il s'agit de La Canaille, interprétée ici par le groupe Les Amis de ta femme.
Dans la vieille cité française existe une race de fer dont l'âme comme une fournaise a de son feu. La chair, tous ses fils naissent sur la paille. Pour palais, ils n'ont qu'un taudis, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Ce n'est pas le pilier de bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plume ou le marteau, gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème qui s'en soupérime rêveur. Un couplet à celle qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est à crédit qu'il fait ripaille, qui loge et qu'il a des habits, c'est la canaille. Eh bien j'en suis.
Très préoccupé par les pertes subies lors des premiers affrontements et par l'impréparation de son armée, le général autrichien Ludwig von Benedek presse dans un premier temps l'empereur François Ferdinand de faire la paix avec la Prusse. Devant le refus de ce dernier, le militaire décide de placer ses troupes au nord-ouest de Hradec Králové à Sadowa, une position défensive jugée idéale. Côté prussien, le général Helmut Karl Bernhard von Moltke et son état-major estiment que la bataille décisive doit avoir lieu dans la région de Jičín, c'est-à-dire non loin de là, un peu plus loin encore au nord-ouest, car il faut faire la jonction entre les trois armées prussiennes qui doivent contourner par ces deux flancs le massif des Monts des Géants. Au petit matin du 3 juillet 1866, les hostilités peuvent débuter entre les hommes de Benedek et ceux de von Moltke. Pour une émission de la télévision tchèque, l'historien Pavel Bielina décrivait ainsi les deux hommes.
No tak on měl každý nesporně své kvality.
Ils avaient tous les deux leurs qualités et on pourrait dire qu'un chef militaire idéal résulterait peut-être de leur fusion en un seul individu. Benedek était de la vieille école, celle encore des guerres napoléoniennes. Il était brave et chevronné. Il était aussi très populaire chez ses hommes, mais malheureusement plus tellement auprès de ses supérieurs, ce qui lui a ensuite causé des soucis. Von Moltke n'avait pas d'expérience militaire, sinon la campagne du Danemark de 1864, mais c'était un très bon théoricien, très instruit avec une grande culture. Il avait aussi un énorme avantage puisqu'il n'était pas formellement le commandant en chef, c'était le roi de Prusse Guillaume Ier. Il était le chef d'état-major et commandait de facto.
On totiž nebyl formálně vrchním velitelem. On velel de facto, on byl náčelníkem generálního štábu.
La bataille débute au petit matin. Dans un premier temps, les forces autrichiennes sont supérieures en nombre car elles ne font face qu'à une partie de l'armée prussienne. Elles ne parviennent pourtant pas à prendre un avantage décisif. Les combats font rage en différents points, notamment dans les bois. Les événements prennent une autre tournure en début d'après-midi quand de nouvelles unités prussiennes parviennent sur le champ de bataille. Les Prussiens réussissent alors à prendre la colline de Chlum, située sur la commune du même nom. Après quelques tentatives ratées pour reprendre ce site stratégique, les forces autrichiennes sont menacées d'encerclement. Benedek ordonne alors la retraite. L'engagement pour tenir la colline de Chlum a été crucial. Malgré la défaite autrichienne, certaines unités se sont particulièrement distinguées. C'est le cas d'un corps d'artillerie baptisé postérieurement la Batterie des Morts. L'historien Wojciech Kessler, qui a offert à quelques privilégiés de la radio tchèque une visite guidée des lieux où s'est déroulée la bataille et où un musée et des monuments commémoratifs s'élèvent maintenant, raconte les faits d'armes de cette Batterie des Morts depuis une colline d'où on aperçoit la petite église qui surplombe Chlum.
Tady v tom místě stálo rakouské dělostřelstvo. On tu nebyl ten les, co je za námi.
C'était à cet endroit que se tenait l'artillerie autrichienne, qui avait toute la journée fait feu sur les forces prussiennes, parvenant plus ou moins à les maintenir à distance. Mais les Prussiens sont parvenus à prendre la colline de Chlum, et cela a été un véritable choc pour l'armée autrichienne qui se retrouvait à portée de l'ennemi. Cela a causé un mouvement de panique. Les artilleurs autrichiens voulaient fuir pour rejoindre la route vers Hradec, mais il était évident que cela était impossible, l'ennemi étant trop près. Aussi, un chef d'une batterie d'artillerie à la tête d'environ 150 hommes et de 10 pièces d'artillerie, apercevant les uniformes bleus prussiens, a donné l'ordre à son unité de faire front pour tirer une dernière salve. Bien sûr, presque tous ont été tués, mais grâce à cet acte, ce que l'on peut qualifier d'héroïque, le reste de l'artillerie a pu s'enfuir. C'est pour cela qu'on l'appelle la batterie des morts. Ces hommes disposent non loin d'une sépulture commune et 53 membres de cette unité ont pu être identifiés.
Protože se tomu říká baterie mrtvých. Je tady kousek jejich hromadný hrob. 53 lidí se podařilo identifikovat z toho oddílu.
Dès la fin du XIXe siècle, la mémoire de ces soldats est entretenue. Ils sont quelques-uns des milliers d'hommes à avoir perdu la vie ce 3 juillet. Les estimations sur les pertes des deux camps sont variées. Côté autrichien, il est question de 40 000 soldats qui auraient été mis hors d'état de combattre. Il s'agit de morts, de blessés, mais aussi de prisonniers. Chez les Prussiens, ce nombre est évalué à 10 000. La bataille a également coûté la vie à 7 000 chevaux. Pavel Bielina considère toutefois que cela n'a pas été le carnage qu'on présente parfois et que ce sont avant tout les manœuvres tactiques des différents corps d'armée qui ont décidé de la victoire. Il n'en reste pas moins que l'affrontement a été sanglant et sans doute très impressionnant, comme il l'explique.
A je zaznamenáno, že ve více než 30 kilometrů vzdálené Jilemnici.
On trouve des notes selon lesquelles les carreaux des fenêtres du village de Jilemnice, à plus de 30 kilomètres de la bataille, ont tremblé en raison de la canonnade. C'est quelque chose qui, dans l'histoire tchèque, y compris avec la bataille d'Austerlitz, n'a pas de précédent.
Pour prendre la mesure de l'importance du rôle de l'artillerie durant cette bataille, il n'est peut-être pas inutile de se tourner vers les nombreuses chansons populaires qui fleurissent ici et là en s'inspirant du conflit. Côté tchèque, la plus célèbre d'entre elles est sans doute « Udatnírek kanonír Jabůrek », c'est-à-dire « Le vaillant et héroïque canonnier Jabůrek », encore chanté aujourd'hui. Le texte écrit en 1884 compte les exploits du canonnier Franz Jabůrek, dont il est dit qu'il vint à bout de tout un régiment prussien. C'est d'autant plus incroyable que d'après ce chant parodique, le courageux soldat, tel le chevalier noir des Monty Python, continua à tirer avec son canon, même après avoir perdu ses deux bras puis sa tête.
Kanonu stál a pořád láno, 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 u kanonu stál a pořád lánoval.
Máni šarže, oficíři, kobily i kanoníři po zemi se válejí. Rány je moc pálejí.
A u kanonu stál a pořád láno, 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 u kanonu stál a pořád lánoval.
Zdor hroznému dešti kule k firework, Franz Jabůrek s luntem u kanonu stál a pánvičku půcoval.
A u kanonu stál a pořád láno, 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 u kanonu stál a pořád lánoval. A už cílel jako blázen, prajzi měli horkou lázeň, celý rozbil regiment. Jabůrek ten záprmen a u kanonu stál a pořád láno, 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 u kanonu stál a pořád lánoval.
Le sort de la bataille aurait-il pu être différent? Avec des sillons mais paris en bouteille, mais tout de même, il a été notamment reproché au général Benedek à un moment où les troupes autrichiennes paraissaient avoir l'avantage de ne pas avoir ordonné une charge de cavalerie pour achever des unités prussiennes en difficulté. Démissionnaire de son poste de commandant en chef à la fin du mois de juillet, Benedek fera d'ailleurs l'objet de poursuites devant un tribunal militaire, poursuites abandonnées à la demande de l'empereur. Par ailleurs, les Autrichiens auraient pu avoir des armes à feu au niveau en termes de système de chargement, et ce grâce à un tchèque. C'est l'hypothèse de Wojciech Kessler qui, devant des fusils exposés au musée de Chlum, développe.
Ten systém to nabíjení byl znám 20-30 let zpátky. A jedním z vynálezců, který tento systém rozvíjeli,
ce système de chargement par la culasse était déjà connu 20 à 30 ans auparavant. Et l'un des concepteurs de ce système, un Tchèque, l'a proposé à Vienne au ministère de la guerre. Mais si l'on peut recharger un fusil plus vite, cela veut aussi dire qu'on va avoir besoin de plus de poudre et de munitions. C'est une question de budget. On allait devoir acheter plus de munitions. C'était l'une des raisons, pas la seule, pas la principale, pourquoi les Autrichiens ont renoncé à remplacer leur type de fusil.
Proč vlastně odmítli vybavit svou armádu tímto typem pušky, ne tady přímo tímto, ale podobným systémem.
Après Sadova, la guerre n'est pas totalement finie pour autant. Les Prussiens doivent encore défaire l'armée bavaroise, alliée de l'Autriche, tandis que le conflit se poursuit au sud. Le jeune royaume d'Italie a en effet déclaré la guerre à Vienne dans l'espoir d'annexer la Vénétie. Ce sera chose faite. Entre Prussiens et Autrichiens, la paix est signée le 23 août 1866 à Prague. Berlin prend possession de différents territoires allemands et affirme son hégémonie sur le monde germanique. La Confédération germanique est dissoute. Amputée de l'Autriche, elle devient la Confédération germanique du Nord, un État fédéral et une alliance militaire sous présidence de la Prusse. Pour les Autrichiens, il était temps de signer le traité de Prague, si l'on en croit l'édition du 25 août 1866 du quotidien Le Constitutionnel.
La paix a été signée avant-hier à Prague entre l'Autriche et la Prusse. Le cabinet de Vienne a pressé la conclusion, surtout en vue d'une prompte évacuation par les troupes prussiennes de la Bohême, très cruellement éprouvées par l'occupation ennemie.
Devant l'avancée des troupes prussiennes, de nombreux habitants ont fui les villes. C'est le cas à Prague, mais évidemment aussi à Hradec Králové. Au moment de Sadova, 1200 personnes sont restées dans cette cité qui compte normalement 6000 habitants. La bataille a laissé des marques, ce qui n'est guère étonnant compte tenu de son ampleur. Pavel Bělina.
Je crois qu'il est important de souligner que c'est la plus grande bataille de l'histoire en pays tchèque. C'est aussi la dernière bataille dite de champ, dans le sens ancien de cette expression, parce qu'on ne peut plus considérer ainsi les opérations militaires au XXe siècle.
Bientôt, Bismarck parviendra à réaliser l'unification allemande grâce, 4 ans plus tard, au conflit contre la France qui n'a pas su anticiper la montée en puissance prussienne. Avec la guerre austro-prussienne, la première durant laquelle a été appliquée, au moins partiellement, la Convention de Genève et a pu opérer activement la Croix-Rouge, l'Empire d'Autriche a fait montre de ses faiblesses. Il ressort très affaibli et, sous la pression hongroise, naît en 1867 l'Empire austro-hongrois. Une construction qui déçoit cependant les aspirations nationales d'autres peuples, dont les Tchèques. Et avant de se quitter, écoutons, si vous le voulez bien, un morceau de Brahms. Le compositeur allemand était installé à Vienne depuis le début des années 1860. Les protagonistes de la guerre austro-prussienne l'écoutaient certainement comme nous aujourd'hui.